Carnet de campagne, bonjour. Nous ouvrons cette semaine par une édition spéciale agriculture en compagnie du magazine Social Terre et de son rédacteur en chef Philippe Vionduri. Depuis 6 ans que ce bimestriel est né, aucune question de l'économie sociale ne lui échappe. Le numéro de février-mars porte en titre « Sevrons l'agriculture ». Des explications s'imposent. L'agriculture prépare son salon annuel, vous le savez peut-être déjà, Porte de Versailles. C'est à Paris, du 23 février au 3 mars, en tenant compte des changements opérés par les entrepreneurs et les salariés du monde agricole. Il ne s'agit pas d'un débat entre bio et pas bio, mais d'une reconsidération de la qualité de notre alimentation et donc d'une nouvelle orientation des pratiques et des finalités de l'agriculture. Pour la première fois, une nouvelle plateforme pour une autre PAC sera présentée physiquement présente aussi à ce salon, je vous en dirai davantage tout à l'heure. Et preuve des changements, des mentalités, la vitrine internet du Salon de l'Agriculture 2019 a pour titre « L'agriculture des femmes, des hommes et des talents ».
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Philippe Vionduri, bonjour.
Bonjour.
Philippe, rédacteur en chef du magazine Social Terre, le magazine qui existe depuis 5 ans, bientôt 6, qui est bimestriel, pas à confondre avec un bimensuel c'est tous les 15 jours, un bimestriel c'est tous les 2 mois.
Voilà.
Et donc, dernier numéro qui nous intéresse franchement, février-mars, Sevrons l'agriculture. On va parler de l'état de l'agriculture, la réponse à l'agriculture industrielle avec des programmes d'agroécologie ou de culture agricole biologique, mais avant cela, l'histoire de Social Terre, économie sociale, alternative et transition, c'était les 3 éléments forts de constitution de ce magazine.
Tout à fait, ouais. De s'intéresser particulièrement à la transition écologique, à la transition sociale, au regard des inégalités, transition économique dans l'organisation de l'économie face à la mondialisation notamment, et transition aussi, je dirais, des façons de travailler, des mutations du travail, et transition aussi technique, technologique, puisque le rapport aux outils aujourd'hui est très important, et peut-être que la high-tech doit être questionnée.
La quoi ?
La high-tech, mais on va faire un hors-série bientôt sur les low-tech. Voilà.
Ah oui, les low-tech, tiens, bien joué. Il y avait du militantisme à l'origine de la création de Social Terre ?
Je pense que ça n'a pas vocation à être un magazine militant. Par contre, c'est un magazine engagé, clairement. Moi, je ne crois pas à l'objectivité dans le journalisme. Je pense qu'on parle toujours de quelque part. Donc, effectivement, on s'engage en faveur d'une économie sociale et solidaire, d'une transition écologique et de notre société vers quelque chose de durable, de plus égalitaire, de plus raisonné.
Vous vous portez a priori bien, puisque vous parvenez à l'équilibre. Comment on évite de tomber dans la niche que pourrait être ce piège d'un magazine alternatif qui va s'adresser à un public un petit peu informé, avisé et curieux, mais qui correspond aussi à une niche du lectorat?
C'est très compliqué d'un point de vue un peu abstrait. Effectivement, avoir une ligne trop large aujourd'hui, je pense que c'est suicidaire, puisqu'on peut pas être généraliste en 2019. Les chiffres de la presse le rappellent. Et surtout, je pense que c'est pas une niche auquel on s'adresse, puisque tout le monde aujourd'hui, les sondages le rappellent régulièrement. Malgré ce qu'on croit sur les gilets jaunes, que les gens se désintéressent de l'écologie, de ces questions-là, je crois au contraire que c'est plus que jamais d'actualité et que tout le monde s'intéresse au sens du travail, au sens de l'économie, au devenir de la planète, de notre écosystème en regard de ses enfants, etc. Donc c'est pas du tout une niche. Ouais.
Et Philippe, vous sentez la fièvre monter de la part du lectorat, justement, qui est de plus en plus proche de ces sujets et de ces thématiques que vous développez dans chaque numéro ?
Je pense qu'effectivement, il y a une montée en puissance de ces thématiques dans le lectorat. Et je pense aussi qu'il y a une nouvelle attente du point de vue du lectorat qui est d'allier un point de vue critique par rapport au système dans lequel on vit, avec un point de vue aussi plus optimiste. Alors, j'aime pas le mot optimiste, mais c'est la phrase de Gramsci qui dit « il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté ». Et peut-être que l'optimisme de la volonté manque parfois dans certaines revues.
Je vais imprimer la formule.
Elle est très belle. Et effectivement, on essaye. Alors moi, je ne fais pas de journalisme de solution.
J'allais vous poser la question.
C'est un journalisme d'alternative, je dirais, et d'exemplarité. On essaie toujours de mettre en avant des gens qui expérimentent des choses qui peuvent être exemplaires, dans le sens qu'elles montrent l'exemple de ce qui pourrait être.
Ah, je savais pas que nous serions autant d'accord sur les points de vue, sur les mots et sur les orientations. Donc le numéro de Social Terre, février-mars. Sevrons l'agriculture, un drôle de titre, sevrer l'agriculture.
C'est un patient malade. Oui, alors faut pas qu'on se trompe sur le titre. Et bien sûr que ce n'est pas une question de financement ou d'assistanat ou quoi que ce soit. C'est vraiment la question des intrants, de la pétrochimie. C'est tout ce qui aujourd'hui fait qu'on en arrive à une agriculture industrielle se prête aux critiques. Et on veut effectivement dépasser le débat sur pour ou contre l'agriculture industrielle, pour ou contre les pesticides. Je pense que le débat est fini là-dessus. Et c'est vraiment comment on en sort, comment on sèvre l'agriculture et comment on fait une révolution, dans le sens qu'on revient à un état antérieur, peut-être plus sain, d'une agriculture qui a existé il y a encore 50 ans, mais nouvelle, puisqu'elle doit s'adapter aux enjeux que nous connaissons aujourd'hui.
Vous diagnostiquez les sources du mal et vous proposez quelques pistes de solutions, des solutions qui sont déjà en cours. Margot Léridon consacre un article dans ce numéro à sortir de l'agriculture industrielle, mode d'emploi. Elle rappelle à juste titre un programme qui a fait un peu tâche, presque effet de bombe dans le milieu agricole conventionnel. C'était le programme agroécologie porté en 2012 par Stéphane Le Foll, qui modifiait la donne, qui n'a pas eu finalement l'impact qu'on pouvait imaginer, mais c'était tellement neuf dans le milieu agricole.
Bah, il a carrément été enterré, je crois, il n'a pas donné suite, hein. On l'a un petit peu oublié d'ailleurs. Mais effectivement, ce programme était assez ambitieux, du moins il amorçait symboliquement quelque chose. Au niveau de l'Europe, il y a eu un mouvement pour une autre PAC, il y a eu des réflexions sur comment est-ce qu'on attribue une partie de ces budgets vers une transition, par exemple, pour favoriser l'implantation de l'agriculture bio, ou la transition de l'agriculture conventionnelle vers du bio. Mais quand on regarde la part des budgets, je crois que ça va monter à 160 millions par an pour la France. Quand on regarde en regard des 7 milliards et quelques du budget de la PAC, c'est assez minime, mais c'est pas du tout un enjeu pour eux pour l'instant.
J'aime beaucoup la citation de Marc Dufumier que notre consoeur rapporte, Marc qui est professeur émérite à AgroParisTech. Il y a deux formes d'agriculture, celle qui coopère avec la nature et celle qui ne coopère pas. Au moins les choses sont claires, il s'agit de bien simplifier pour repartir vers peut-être plus étoffé après, mais au moins la chose est claire. Philippe Vionduri, rédacteur en chef du magazine Socialterre, notre invité de ses carnets pour un dossier consacré à l'agriculture. L'agriculture à réformer, qui est en train de se modifier au fur et à mesure des besoins des uns et des autres, et surtout de l'état de notre planète avec les transitions énergétiques et climatiques qui nous imposent de modifier notre modèle. Si vous voulez des informations, c'est socialterre.fr, hein, puis il y a aussi une page Facebook. D'ailleurs, il y a des auditeurs qui me disent, comment vous pouvez à chaque fois citer Facebook. Alors effectivement, sur Farce de Buc, il y a tout et n'importe quoi, mais c'est souvent un bon diffuseur lorsque les informations sont intéressantes et de qualité. Socialterre, donc numéro de février-mars, avec une tribune que vous ouvrez à Fabrice Nicolino.
Oui, qui a gentiment répondu à l'appel. Alors au début, moi je lui avais dit, faisons quelque chose sur comment sortir des pesticides concrètement, quels sont les obstacles, comment est-ce qu'on peut faire, etc. Et il était plus pour un beau manifeste, comme il sait faire, sur les méfaits des pesticides. Donc on a essayé aussi de compléter cette belle tribune avec des éléments un petit peu de transition pour amorcer la sortie des pesticides, ça se fera pas du jour au lendemain non plus. Donc lui, il revient effectivement sur cette alliance qu'il y a eu au sortir de la guerre entre la pétrochimie et l'agriculture, comment ça a été favorisé par les lobbies, par les décisions des pouvoirs publics qui ont décidé de mettre en place ce système de production industrielle de pesticides et de les épandre largement sur les champs. Et il rappelle évidemment tous les dégâts que ça fait aujourd'hui en termes de biodiversité, en termes sanitaires. Bon, on pourrait épiloguer là-dessus.
Vous donnez des chiffres d'ailleurs à propos du système intensif et industriel de l'ancienne agriculture, je veux dire ancienne, entre autres sur l'élevage intensif, 63% de la destruction de la forêt amazonienne est due à cet élevage intensif, 70% des terres agricoles dans le monde sont consacrées à l'élevage, un peu plus de 40% en France. C'est vrai qu'il y a aussi une énorme production de blé, d'avoine, d'orge, de colza, qui est destinée à l'alimentation du bétail. Alors, on va pas dire ce qu'on préconise, mais si je sais pas, peut-être, d'ailleurs, est-ce que vous vous donnez un rôle prescriptif?
Oui, en filigrane. Des fois, on le dit clairement, des fois non. On sait que, par exemple, si on repassait sur un modèle plus ancien d'élevage raisonné en agroécologie, on pourrait diminuer de 40% cette empreinte, déjà. Donc, de moitié, quasiment. Donc, c'est énorme. Est-ce qu'on pourrait nourrir tout le monde avec un régime végétalien, par exemple? Est-ce qu'on doit abandonner l'élevage? A priori, non, c'est pas optimal. Ce qui est optimal, c'est de revenir à une agriculture raisonnée.
Et puis vous dites limiter donc les produits carnés.
Limiter les produits carnés, mais les produits dérivés sont quand même conseillés d'un point de vue nutritionnel et puis d'un point de vue de l'élevage. Il y a des terres qu'on ne pourra pas mettre en culture, hein, donc on pense à tout ce qui est pastoralisme, tout ce qui va être les alpages. Énormément de terrains sont en fait tout à fait compatibles avec un élevage raisonné. Et en plus, l'agroécologie, la permaculture aussi, prescrivent en fait de mélanger l'animal et la plante, puisque ça crée des écosystèmes, c'est un enrichissement mutuel. Donc c'est revenir à une coopération avec l'animal et non pas son exploitation industrielle en batterie. C'est toujours pareil, on en revient aux mêmes dérives d'un système industriel qui déshumanise, qui dévitalise, on pourrait dire, la plante comme l'animal.
On a l'impression, Philippe, que c'est une bataille quotidienne qu'il faut mener, parce qu'on a appris il y a quelques mois que le Conseil constitutionnel avait interdit à nouveau la vente des semences paysannes, en tout cas celles qui n'étaient pas dans le catalogue officiel. Autrement dit, aujourd'hui, les amateurs peuvent s'échanger, mais les professionnels qui proposaient des variétés de semences se retrouvent interdits d'exercer.
On croyait qu'il y avait une avancée, en fait non. Effectivement, les semences paysannes, en fait, ce sont les semences anciennes qui sont issues d'une adaptation millénaire de la nature à des contextes locaux, climatiques, météorologiques, des sols, etc. Qu'on a peu à peu abandonné au profit d'une agriculture extensive, monoculture, c'est-à-dire qu'on prend une espèce, qu'on l'implante dans un sol qui n'est pas forcément approprié, on la cultive en masse car c'est plus rentable, il y a plus de rendement, on épuise les sols, etc. Et aujourd'hui, effectivement, il faudrait revenir, si on sort des pesticides notamment, il faudrait avoir des plus résistantes, plus acclimatées aux contextes locaux, et donc se diriger vers des semences paysannes. C'est ce que le bon sens se dicte. Et on pensait enfin qu'on allait pouvoir avancer sur ce sujet, puisqu'il y a quelques mois, il y a une décision de la Cour de justice, je crois, européenne, qui autorisait cette vente. Et finalement, effectivement, dans la loi Egalim, où c'était prévu qu'on puisse commercialiser ces semences, ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel au motif que c'était un cavalier législatif. Donc normalement, ça veut dire que ça n'a rien à faire avec la loi. Or, c'est une loi sur l'alimentation, donc je ne vois pas en quoi ça n'a rien à faire. Donc ça serait bien d'enquêter quand même sur comment...
Mais c'est tout frais, hein,
sur quel motif on a interdit... les sages ont décidé d'interdire cet amendement. Vous l'interprétez quand même comme un recul, encore une fois.
L'autosuffisance alimentaire, l'association des cultures, la bio pour tous, avec le grand point d'interrogation sur la réglementation aussi des prix qui permettrait peut-être de favoriser les producteurs et d'éviter la mainmise, c'est ce que vous rappelez, la mainmise des grands distributeurs sur la production biologique. C'est dans Social Terre, donc le numéro de février-mars. Il y a 3 hors-série hein, par an aussi, si vous voulez vous y pencher. Socialterre.fr. Merci Philippe.
Merci à vous.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand, sur France Inter.
Et donc, comme je vous le signalais au début de cette émission, dans le cadre du prochain Salon de l'Agriculture, sera présentée la plateforme pour une autre PAC créée par de nombreux organismes, WWF, la Fédération des Parcs Naturels Régionaux, Slow Food France, le réseau CIVAM, je ne vais pas citer tout le monde. La construction de cette plateforme fait suite à un premier engagement en 2009 sous le nom de PAC 2013, à l'orée de la réforme politique agricole commune 2013-2020. Le groupe a publié des études, des bilans et avancé des propositions, et maintenant, nous en sommes au débat sur la PAC post-2020, débat ouvert, et le groupe a mis en place à cette occasion cette plateforme afin d'intégrer au débat des représentants de la société civile. La plateforme va tenir un programme de rencontres et d'échanges sur son stand du Salon de l'Agriculture. Elle va lancer à cette occasion une campagne intitulée « Tablons sur nos paysans ». Le site, c'est pour une autre PAC.eu.